Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Content de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent actuellement sur Radio Galaxie 98.5 FM, la radio du sud toulousain, de Toulouse jusqu'au pied des Pyrénées. Et nous allons continuer nos discussions avec ce qui va nous préoccuper, ce qui nous préoccupe cet hiver, c'est la question de l'énergie électrique. Et je suis actuellement en studio avec Stéphane Le Sénéchal. Stéphane Le Sénéchal, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Stéphane Le Sénéchal, donc vous êtes directeur technique Enedis pour la Haute-Garonne. Enedis, c'est quoi ?
Alors Enedis, c'est le distributeur d'électricité en France sur 95% du territoire. Peut-être Bruno, pour rappeler à nos auditeurs, quatre grands acteurs en France. Un acteur sur la production, donc les producteurs. C'est un marché qui s'est énormément ouvert. Hein. On a plus de 500 000 producteurs en France. Chaque client peut produire à partir de panneaux photovoltaïques, par exemple. Et puis, il y a des très gros producteurs, comme EDF et d'autres, avec les centrales. Ça, c'est la production. C'est ouvert à la concurrence. Juste derrière, il faut transporter l'électricité. C'est le réseau de transport de l'électricité, RTE, que vous avez reçu aussi ici.
Oui, on a reçu Eric Farabeau là-dessus, qui nous expliquait qu'en fait, RTE, ce sont les autoroutes de l'électricité, c'est ça ?
Exactement ça. Ce sont les autoroutes de l'électricité, les grands pylônes que vous voyez dans nos campagnes.
Et ce qu'on appelle la très haute tension, c'est ça ?
La très haute tension, 400 000 volts.
Il y a combien de... C'est quelle puissance qui passe dans ces fils-là ?
Ah ben là, ce sont des câbles qui alimentent des régions entières. Donc, on parle de tension, hein, 400 000 volts, 220 000 volts, 90 000 volts. Donc, on est sur des tensions qui sont très élevées et qui permettent effectivement de faire transiter beaucoup d'énergie. Juste après, on a le distributeur, donc Enedis. Donc, si on fait le parallèle avec les routes, on a parlé des autoroutes. Nous, c'est les routes nationales, les routes régionales, les routes départementales et les chemins qui amènent l'électricité jusque dans les habitations, chez les professionnels ou ici à Radio Galaxie.
Donc, en fait, Enedis, c'est celui qui va prendre l'électricité sur les autoroutes et va les distribuer jusque dans les maisons.
Exactement. Et il faut construire ce réseau, le fabriquer. Et puis après, l'exploiter, donc le maintenir, le dépanner 24 heures sur 24 jusqu'au comptage. Comptage qui a fait l'actualité ces dernières années puisqu'on a changé tous nos compteurs pour les compteurs Linky. Ça, c'était Enedis aussi.
Juste petite parenthèse sur Linky. Tout le monde est équipé Linky aujourd'hui ?
Alors sur le département, on a dépassé les 90% de compteurs équipés Linky. Donc c'était l'objectif qu'on s'était fixé, bon, on continue à en poser au fil de l'eau, hein. Donc oui, une énorme majorité de compteurs posés, et puis surtout ce qui est important à dire, c'est que le système fonctionne très bien, et permet aujourd'hui, un, de piloter le réseau de façon beaucoup plus efficace et plus rapide, notamment sur le dépannage, et puis aussi dans un sujet dont on va peut-être parler, permet au client de maîtriser sa consommation de façon beaucoup plus précise.
On y reviendra après, mais Linky, ça permet aussi pour des gens comme Enedis d'avoir une surveillance, entre guillemets, surveillance du réseau pour pouvoir anticiper les besoins et de savoir là où il faut mettre plus de force.
Oui, c'est dit de façon simple, mais c'est exactement ça. Faut comprendre que chaque compteur Linky nous donne des informations sur la qualité du réseau. Donc là où, par exemple, on devait poser un enregistreur de tension chez chaque client qui nous disait « moi j'ai l'impression que j'ai des problèmes chez moi », aujourd'hui c'est fait automatiquement et surveillé avec chaque compteur Linky. Et vous avez raison, on commence à faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'on a des poches où le système Linky, qui est surveillé maintenant 24 heures sur 24, hein, on a des gens qui travaillent en 3-8 et qui surveillent le réseau basse tension grâce à Linky, et le système nous dit « là on a une faiblesse ». Et on vous propose, le système propose par des algorithmes, des solutions d'amélioration qu'on met en œuvre sur le terrain avant même que la panne arrive. Donc oui, Linky, bien sûr pour nous, c'est améliorer la réactivité et la qualité technique de notre réseau. D'ailleurs, il faut le dire, hein, Haute-Garonne, on est en Haute-Garonne ici, on a moins d'une heure de coupure par an et par habitant dans cette zone qui est un très bon résultat. Et tout ça, on progresse avec Linky.
Ça, c'était le troisième acteur, il y a le quatrième.
Exact. L'acteur derrière le distributeur que nous sommes, c'est le fournisseur d'énergie, le commercialisateur, celui qui vous vend les kilowattheures. Donc là, il y a plus de 80 fournisseurs aujourd'hui en France. Il y a des très gros hein, que vous connaissez, les anciennes grandes entreprises Elec Gaz, mais il y en a une multitude d'autres. Donc là, on a fait le tour du marché de l'énergie, qui n'est pas très simple à comprendre.
C'est non, vrai. C'est pas simple. C'est vrai que pour nos auditeurs, depuis l'éclatement, je dirais, de l'entité EDF, il y a eu plein de satellites qui se sont créés autour. Et c'est pour ça que c'est bien, de temps en temps, de pouvoir resituer chaque élément du puzzle. La question, alors, il y a deux questions. La première, c'est cet hiver, on entend parler un peu partout des tensions sur le réseau. Et est-ce qu'il y a un risque ou pas ?
Alors, oui, il y a un vrai risque. Ça fait plusieurs années qu'on se prépare à ce risque, mais il est plus présent aujourd'hui. Il faut rappeler d'abord qu'en électricité, c'est relativement simple. Vu qu'on ne stocke pas de façon importante l'électricité, il faut à chaque instant, comme en ce moment-là, produire exactement ce qu'on consomme. Quand la consommation augmente, il faut donc que la production augmente. En ce moment, notamment lié au fait qu'un certain nombre de réacteurs, donc c'est 26, c'est public, hein, ne sont pas disponibles parce qu'ils sont en maintenance, et notamment lié à des décalages suite au Covid, on n'a pas toute la production disponible dans un cas de jour très froid. Donc le risque existe. RTE, qui est l'acteur qu'on a cité tout à l'heure et qui gère en permanence l'égalité entre l'offre et la demande, nous dit sur sa dernière conférence de presse, je crois le 18 novembre, que sur le mois de décembre, normalement, on devrait passer, mais qu'on a une situation critique pour janvier, sur quelques jours en janvier, où il est possible qu'on ait un risque de coupure. Et le premier message que je veux passer, Bruno, c'est vraiment EcoWatt, EcoWatt, EcoWatt. C'est un signal, c'est la météo de l'électricité, que maintenant on voit beaucoup en même temps que la météo, le temps, hein, chaque soir, et qui est aussi disponible sur son téléphone portable ou sur ordinateur. Hein, vous téléchargez l'application EcoWatt qui est disponible et qui vous dira si, comme aujourd'hui, on a regardé tout à l'heure ensemble, on est en jour vert, en jour orange, un peu plus de tension, et surtout en jour rouge, dès qu'on a le signal rouge, ça veut dire sous 3 jours, on peut avoir un risque de coupure. Et c'est largement évitable. C'est le message qu'on veut passer avec RTE. C'est que si chacun fait un effort quand le signal rouge est émis, je baisse ma température de chauffage, je reporte des usages électroménagers par exemple, je fais attention aux cuissons, je baisse la température de l'eau chaude, que les collectivités et les professionnels font un effort aussi, tout ça est largement évitable pour gagner les 10% hein, qui nous manqueront peut-être en 4 pointes.
Parce qu'on va rappeler, en préparant l'émission, on a eu quelques chiffres. Si tout le monde éteint sa lumière, par exemple.
Alors, une ampoule dans chaque foyer en France, c'est à peu près la puissance de la ville de Nantes ou de la ville de Nice. C'est énorme. On a cité aussi un chiffre. Le pays est très thermosensible, on dit. Hein. Ça veut dire qu'on est très sensible à la température extérieure parce qu'on a beaucoup de chauffage électrique en France. Et 1 degré. C'est 2 nouveaux réacteurs nucléaires qu'il faut mettre en service. C'est 2400 mégawatts à peu près. Ça veut dire dans l'autre sens, quand on baisse la température de consigne de 1 degré, c'est une puissance qu'on gagne. Tout ça pour expliquer que s'il nous manque 10 gigawatts ou 12 à la pointe c'est 8h-13h le matin et 18h-20h le soir, si chacun fait des efforts tels que ceux qu'on a présentés, c'est largement possible de passer les pointes sur un jour froid.
Mais c'est aux particuliers de faire les efforts, les professionnels, toutes les vitrines qu'on voit allumées, les publicités dans les rues, eux aussi font des efforts ?
Oui, vous avez raison. C'est un effort de chacun. En nous, Enedis, on est très proche des collectivités qui possèdent d'ailleurs le réseau électrique. Donc on voit et on les accompagne sur les efforts qu'ils ont à réaliser eux, et ils en font, je peux le témoigner, notamment sur l'extinction de l'éclairage public où toutes les collectivités se posent des questions et sont en train de mettre en place des systèmes pour couper ou baisser, quand c'est du LED et que c'est possible, l'éclairage public, notamment la nuit, mais parfois aussi sur la pointe. Parce que comme on l'a vu, couper l'éclairage public à minuit, c'est très bien, hein, ça permet de réduire les factures, bien sûr, de protéger la faune. Mais le faire le soir, c'est encore mieux, entre 18h et 20h, dans certains quartiers. D'ailleurs, on a développé une solution très simple, qu'on a développée ici en Haute-Garonne, de coupure de l'éclairage public avec Linky. Donc les collectivités qui sont intéressées peuvent nous contacter. Ça, c'est les collectivités qui font des efforts aussi sur les températures de chauffage dans les bâtiments, etc. Et puis les professionnels, vous avez raison, c'est la même chose. Chacun fait des efforts pour essayer de baisser les températures. Je, Je suis allé dans un hypermarché il y a quelques jours. J'ai vu la puissance lumineuse beaucoup plus faible que d'habitude, la température de chauffage plus faible, et les plus grandes enseignes ont effectivement déclaré qu'elles feraient des efforts elles aussi. Bref, on s'y met tous ensemble et ça peut passer.
Des efforts qu'on a déjà vus parce qu'on a vu que la consommation sur le mois d'octobre avait été diminuée entre 5 et 7%, je crois.
Exact, vous êtes très bien renseigné. On a vu qu'au mois d'octobre, la consommation a baissé par rapport à l'année de référence qui était 2019, hein, parce qu'on a été un peu perturbé sur les deux dernières années. Et ça, c'est vraiment très bien. On a vu notamment que sur la partie industrielle, ça avait largement baissé. Donc, chacun fait les efforts. Encore une fois, c'est ça qu'il faut se dire. Hein, quand j'entends « on n'est quand même pas dans un pays du tiers-monde », non, bien sûr que non. On a un réseau électrique qui est en excellent état. On a des très gros moyens de production. On a un passage un peu difficile qui est lié à un contexte, hein, notamment le Covid. On va le passer. On a cet hiver-là qui est rude en termes de production disponible, peut-être le suivant. Mais encore une fois, si chacun fait un effort, ça doit pouvoir le faire.
Ouais, effort qui est motivé aussi par le bon sens de la facture. Parce qu'il y a une conjoncture spécifique qui fait que le marché de l'électricité, du point de vue commercial, explose. Alors, est-ce que ça, c'est dû à RTE? Est-ce que c'est dû à Enedis? Est-ce que c'est dû au producteur? Est-ce que c'est dû au commercial?
Alors, c'est vrai qu'on le voit. Nous, on est un service public et on ne vend pas directement au client final d'énergie, mais bien sûr qu'on suit ça de très près également. Il faut peut-être rappeler que une facture d'énergie, en gros, c'est composé de 3/3. 1/3 de distribution, c'est-à-dire le client paye RTE et Enedis sur sa facture pour à peu près 1/3. Et ce tarif-là, c'est le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. C'est un tarif qui est bien sûr réglementé. Il n'a d'ailleurs pas beaucoup augmenté, il a augmenté de 3%. C'est la part distribution.
C'est ce qui couvre en fait vos infrastructures, la maintenance de vos infrastructures, pardon, et c'est l'État qui régule donc ces tarifs.
Exactement. C'est un tarif qui est régulé, qui est négocié, qui est validé par le régulateur. Donc celui-là, il a augmenté un petit peu, mais ce n'est pas celui-là qui explose. Il y a un 2/3 qui est lié aux taxes, qui lui, plus le volume d'électricité acheminée est important, plus il est important. Mais il ne l'a pas explosé non plus, les taxes n'ont pas explosé. Et le 3/3 qui est la fourniture. Donc c'est bien sur ce tiers-là que le commercialisateur qui vous vend de l'énergie se rémunère. Et cette partie-là, effectivement, elle a pu flamber.
Quelle est la cause de cette flambée des prix?
Alors c'est un peu complexe, hein. C'est lié à un contexte international, c'est lié au fait que nous sommes très connectés au prix pétrolier dans la construction du prix de l'électricité et notamment au gaz. Il y a une indexation du prix de l'électricité qui est liée en gros au prix de l'énergie de la dernière centrale qu'on met en service à la pointe. En gros, c'est ça la construction. Et il s'avère que c'est le gaz, la dernière énergie qu'on utilise dans le mix énergétique, et que le gaz, il a flambé lié au contexte international d'achat.
Et ça, c'est historique? C'est ce lien au gaz avec l'électricité? Parce qu'avant, on utilisait plus de gaz que d'électricité?
C'est historique, effectivement. C'est la construction de notre modèle qui est remis en question par certains politiques. Hein. Peut-être que ça pourrait être déconstruit, mais pour l'instant, il est comme ça.
On a vu donc, pour économiser de l'argent, pour économiser de la tension sur le réseau, il y avait une application qui était EcoWatt, qui est lancée par RTE et sur laquelle vous êtes partenaire.
Exactement. Il faut vraiment que chaque Français ait l'application EcoWatt sur son téléphone ou le regarde sur Internet ou regarde les informations qui vont lui donner le signal EcoWatt du jour. 3 couleurs, vert, orange, rouge. En ce moment, on est vert et pour les 3 prochains jours, on est vert aussi. Ça veut dire pas de tension sur le système électrique. Si ça passe en orange, ça nous annonce déjà qu'on est un peu plus juste. On n'est pas encore sur un risque de délestage ou de coupure exceptionnelle, mais on est sur une tension qui augmente. Et il y a le fameux signal rouge qui veut dire, quand le signal passe au rouge, dans 3 jours, on a un risque de coupure très fort si on n'agit pas.
Attends, là, risque de coupure, ça veut dire c'est tout est coupé, certaines zones sont coupées, qui décide, quelles zones, comment?
Alors pour faire simple et un petit peu pédagogique quand même, parce que c'est évidemment un peu complexe techniquement. Le RTE, on l'a vu, est le responsable de l'équilibre permanent entre offre et demande. Quand lui va considérer qu'il ne peut plus garantir cet équilibre, pour éviter le blackout, parce qu'il faut qu'on le dise quand même, le blackout, c'est ce qui peut arriver de pire sur un réseau électrique.
Tout s'éteint.
Le blackout, c'est tout le pays tombe. Et il n'y aura pas de blackout en France. Ça, on peut l'assurer, il n'y en aura pas. On a trop de systèmes de protection. Et justement, si on est amené à faire un délestage, c'est pour éviter le blackout. Alors, comment ça se passe? RTE nous dit, demain, on aura besoin de délester une petite partie de la puissance électrique appelée en France. Enedis, s'il vous plaît, préparez-vous pour demain. Le principe est de couper des quartiers. Pour des communes petites, ça peut être la commune entière, pour une période maximum de 2 heures dans la journée. Elle sera annoncée la veille, et là encore, EcoWatt est important, puisqu'il y aura un lien direct à partir de l'application EcoWatt pour rentrer son adresse personnelle et savoir si le lendemain, je suis concerné par une coupure, donc maximum de 2 heures, et savoir les horaires. Donc c'est toujours du jour pour le lendemain, en cas d'alerte, qu'on va connaître si on est coupé pour 2 heures maximum pour le lendemain. Et nous, on coupe les quartiers complets. Ça n'a rien à voir avec la technologie du compteur, parce qu'on a entendu encore des choses là-dessus.
C'est pas à distance, tel compteur, on va le couper, etc.
Non,
etc.
Ouais. On coupe pas au niveau du compteur, on coupe au niveau du départ 20 000 volts, c'est-à-dire un ensemble de clients. Quand on est en zone très urbaine, ça peut être 2-3 000 clients. Quand on est en zone plus rurale, bah, c'est une ou deux communes, parfois un peu moins de clients, mais c'est général. Donc, on coupe tout.
Je vais me jouer l'avocat du diable. Ça veut donc dire que c'est plus intéressant de couper des zones rurales où il y a peu d'utilisateurs ou au contraire un quartier urbain où il y a 100 000 utilisateurs?
Alors, il faut équilibrer. Évidemment, dans le décret qui est sorti cet été sur ce sujet-là du gouvernement, il y a l'égalité de traitement et on va dire le système le plus équitable qu'on doit garantir. Donc, du rural sera coupé, de l'urbain. Nos équipes ont préparé des plans de délestage qui feront que, bien sûr qu'on ne va pas éviter que la ville de Toulouse soit coupée, elle sera concernée, mais dans le commun, on aura aussi des coupures qui sont donc tournantes. Ça veut dire que si on a besoin de gagner 10% sur la pointe, le mardi, je peux être concerné par une coupure, mais on fera tout pour que le mercredi, ça tourne sur d'autres clients. C'est ça qui est important, c'est qu'on a bien un système qui est tournant. On peut aussi dire, Bruno, que l'autre élément important, c'est que bien sûr, on ne va pas couper l'intégralité de tous les clients. On a un certain nombre de clients qui sont protégés et qui donc ne seront pas coupés. Alors ça veut dire que si je suis sur le même départ 20 000 volts qu'un hôpital, par exemple, qui font partie évidemment des clients qui sont protégés, qui ne seront jamais délestés, ben, en tant que client particulier, si je suis alimenté par le même départ, je vais être protégé aussi. Donc les hôpitaux, les cliniques, la défense militaire, quelques sites industriels où il serait trop dangereux de couper, un certain nombre de transports aussi, seront protégés des coupures.
Par exemple, les tramways, ça ne sera pas coupé, ça sera coupé, ça? On ne sait pas.
Ça dépend. Ça dépend. C'est pas systématique, mais un certain nombre de transports, effectivement, seront sauvegardés.
Ok, ça, c'est pour les coupures, s'il y en a, espérons qu'il n'y en ait pas.
Et elles sont évitables.
Et elles sont évitables parce que si chacun fait un effort, c'est ça, on va être capable de passer le cap, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, question qui suit celle-ci maintenant, c'est qu'à l'avenir, on nous promet une utilisation de plus en plus intensive de l'électricité parce qu'il va falloir qu'on se passe des énergies fossiles. On est déjà en tension aujourd'hui. Demain, si tout le monde a une voiture électrique, demain, si j'ai des appareils électriques dans toute ma maison, comment on fait?
Oui, faut revenir à l'origine de cette évolution, c'est que le gouvernement s'est fixé comme ambition de réduire l'empreinte carbone. Tout le monde a l'air à peu près d'accord, même si ce n'est pas notre spécialité à nous, pour dire que la priorité pour la préservation de la planète, c'est la réduction de l'empreinte carbone pour éviter le réchauffement climatique. On a une chance en France, c'est que notre mix électrique est très décarboné, puisque grâce au nucléaire, grâce à l'hydraulique, il ne faut pas oublier, grâce aux énergies renouvelables qui sont mises en place chaque année de plus en plus en France, on a un mix électrique à 90% décarboné. Il y a 3-4 pays dans le monde qui sont à ce niveau-là. On en fait partie. Donc évidemment, ça pousse à électrifier un certain nombre d'usages. Vous en avez cité un qui est très important, c'est la mobilité, qui est évidemment très carbonée dans son utilisation aujourd'hui, où on va aller de plus en plus vers du déplacement électrique, mais il y a aussi bien sûr le chauffage qui est concerné, avec encore beaucoup de chauffage carboné au fioul par exemple, et donc petit à petit d'aller sur des usages qui sont électriques. le petit à petit est quand même important. C'est-à-dire qu'il faut accompagner cette évolution. C'est pour ça que le président a annoncé que, bien sûr, si on va vers de l'électrification, il faut plus de production. Aujourd'hui, on a 26 réacteurs qui sont à l'arrêt. Ils vont revenir.
Sur 58, c'est ça ?
C'est ça, sur une grosse cinquantaine. Donc, c'est la moitié. Ils ne sont pas à l'arrêt parce qu'ils sont en panne. Hein. Ils sont en maintenance. Donc, ils vont revenir sur le réseau électrique. Et puis derrière, l'annonce a été faite d'une construction de 6 EPR. Et puis après, ben, l'avenir nous le dira. Donc, effectivement, petit à petit, il faut augmenter les moyens.
6 EPR, c'est une livraison dans 10-12 ans.
Oui, c'est une dizaine d'années, effectivement.
Donc, il va falloir trouver des solutions pour trouver de l'énergie.
Oui, mais l'énergie, on l'a. Les usages, il faut aussi les utiliser de façon intelligente. C'est-à-dire qu'on parlait du véhicule électrique. Le véhicule électrique, d'un côté, c'est une contrainte. Vous l'avez cité, il nous faut de l'énergie pour alimenter les batteries. Et aujourd'hui, c'est du pétrole. C'est bien du vrai remplacement et des kilowattheures supplémentaires. Simplement, c'est aussi une chance. C'est aussi une opportunité. On sait qu'un véhicule électrique en France, il fait en moyenne 40 km par jour. Et les batteries actuelles sont de plus en plus grosses. Et 40 km, il faut 7-8 kWh. Et les batteries ont 30, 40, 50, 60 kWh de disponibles. Ce qui est intéressant, c'est 1. On peut faire de la recharge intelligente, c'est-à-dire au bon moment. Il va falloir petit à petit qu'on pilote ou qu'on aide le client à piloter le fait que on a parlé de la pointe 18h-20h tout à l'heure. Évidemment, ça ne serait pas plus bête de ne pas charger les véhicules sur ce moment-là, mais de les charger un petit peu plus tard. Ça, c'est sur le moment de recharge. Mais le mouvement d'électrons, c'est prendre des électrons pour charger sa batterie de voiture, peut aller aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire récupérer des kilowattheures qui sont dans les batteries et entre guillemets qui dorment, qui ont été chargés peut-être à un moment où on n'était pas en pointe, pour les délivrer soit sur l'installation électrique directement en autoconsommation, c'est pas bête du tout et on teste ça et ça arrivera très vite. Hein.
C'est-à-dire que ma voiture va être capable d'alimenter en électricité ma maison.
Bien sûr. Votre voiture, elle est déjà connectée à votre réseau intérieur puisqu'elle est branchée sur une borne de recharge. Donc, on peut aller dans l'autre sens et délivrer des kilowattheures. Vous les avez chargés à des moments où l'électricité peut-être est moins chère et vous allez les délivrer sur votre installation au moment où on sera sur une pointe en contrainte ou quand l'électricité sera chère. Donc, ces kilowattheures, soit sur la maison, soit revendus sur le réseau de distribution. Donc, vous voyez,
là, il y a quand même des besoins d'installations supplémentaires.
Bien sûr.
C'est ça, à chaque fois, donc il y a une installation et pour pouvoir rebasculer l'énergie sur le réseau, comme pour ceux qui ont des éoliennes aujourd'hui ou des panneaux photovoltaïques, par exemple.
C'est exactement ça. Cette expérimentation en Occitanie s'appelle Flexitanie. C'est une expérimentation qui teste le dispositif exact que j'ai décrit là. Hein. On a 4 véhicules, d'ailleurs, à Toulouse, à Enedis, qui participent à cette expérimentation. Pour l'instant, c'est une seule marque de voiture, quelques véhicules, une centaine en Occitanie, mais on teste techniquement. Après, Bruno, faudra le modèle économique, tout ça, il y a encore du boulot. Mais à partir du moment où on a validé que techniquement ça marche, c'est positif pour la suite.
Stéphane Le Sénéchal, je rappelle que vous êtes le directeur technique d'Enedis pour la Haute-Garonne. Merci de toutes ces informations. Et puis, donc, plaisir. Le message que vous vouliez faire passer, je répète, c'est équipez-vous d'EcoWatt, c'est ça, pour être averti déjà des tensions sur le réseau et de participer, je dirais, à ce mouvement, de délester votre utilisation de l'électricité domestique ou industrielle au moment où le réseau peut le supporter, c'est bien ça.
C'est exactement ça. On est en tension, mais les risques de coupure sont largement évitables. À nous tous de faire un effort.
Merci beaucoup, bonne journée, à très bientôt. Merci d'être sur Radio Galaxy, au revoir.
Merci, au revoir.